c'est 9h midi, les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules en direct sur RMC, RMC Story. Il est l'heure de se retrouver, de débattre en direct jusqu'à midi. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les Grandes Gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, nous sommes avec Marianne Soubré, avocate. Bonjour Marianne.
Bonjour à tous et je vais vous faire part des engagements d'Étienne et de Mehdi qui ont promis aujourd'hui de parler dans leur micro. C'est un truc exceptionnel.
De parler normalement, fort et clair, de façon à ce que tout le monde puisse en profiter. Bonjour monsieur le chef d'entreprise Mehdi Ghezard.
Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes avec Étienne.
Salut,
bonjour.
Salut. On s'en fout pas. Alors, on n'a pas vraiment le cœur à rire.
Non, parce qu'on a une drôle d'atmosphère dans l'équipe depuis ce matin. Alors, vous savez qu'on a des supporters du Paris Saint-Germain. Louis Gerbier qui vous présente le quiz. Olivier, vous le savez, Mehdi Ghezard aussi. Et tout le monde a en tête ce qui s'est passé hier au stade Vélodrome.
C'est fini. L'arbitre a sifflé la fin du match. C'est terminé. L'Olympique de Marseille Saint-Germain de Buzyn, l'Olympique de Marseille élimine le Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Coupe de France. Le Stade Vélodrome est en fusion, le Stade Vélodrome est en volcan.
Ah oui, c'est les Marseillais qui sautaient de joie hier au soir et ce sont les Parisiens qui sont rentrés dans la tête basse au vestiaire.
Il faut être perdant, mais il faut reconnaître que les Marseillais ont très bien joué. Très belle équipe de Marseille hier, bravo, rien à dire.
C'est vrai.
Le plus dur dans cette défaite, c'est la double défaite. C'est-à-dire qu'on perd contre l'OM et on perd comme contre Kauter Ben Mohamed, Mehdi. C'est ça le plus dur, peut-être.
C'est Kauter.
Kauter a fait combien de tweets depuis
Je pense à peu près 184 en 2h30, mais c'est pas grave, mais elle a raison, elle est fière de son équipe. Encore une fois, je l'ai dit, Marseille a très bien joué, bravo à eux, il faut être fair play.
On est inquiet quand même pour mardi prochain,
je pense,
face au Bayern.
On n'a pas beaucoup d'espoir pour faire une belle saison cette année.
Quoi. Ah bon, d'accord, carrément.
Bah, tu sais, c'est la troisième défaite. Hein. On n'avait pas perdu pendant toute l'année.
On voit tous les défauts de l'équipe hier soir.
Et depuis le 1er janvier, trois défaites. On a perdu contre Lens, on a perdu contre Rennes, on part contre Marseille. Et Marseille, tu sais, c'est une double défaite. Hein. C'est une défaite en élimination et c'est une défaite surtout symbolique parce que c'est l'ennemi juré du PSG. Maintenant, voilà, il faut savoir être bon joueur et dire que Marseille hier était meilleur que nous. C'est pas grave.
Après,
ça arrive. Hein. Après, c'est une fois tous les 15 ans, donc c'est pas grave.
Oui, alors, il faut reconnaître que je crois que c'est la première fois qu'on perdait au Vélodrome en Coupe de France depuis, je sais plus,
1989.
Depuis la fin de la Renaissance.
1989. C'est pas la fin de la Renaissance quand même.
Non, mais c'est pas.
Non, mais regarde-le, monsieur Truchot.
Peut-être que c'est salutaire pour les Parisiens dans la perspective de.
Non, parce que entre aujourd'hui et mardi, je vois pas bien ce qu'on peut faire. Mbappé ne sera pas.
Il peut
réparé
y avoir.
Et les manques de cette équipe. Marco on voit Verratti, pas en fait les ressources d'un rebond en fait.
Marco Verratti, c'est le cousin lointain germain qui est en train de jouer.
Il y a Lara Fabian Ruiz, c'est pas possible.
Voilà, en fait le milieu de terrain du. C'est d'un niveau, mais c'est
affligeant.
C'est un peu, quand tu m'enlèves quand tu vas me vendre un Paredes qui était un aboyeur, qui était un cogneur et que tu me mets un solaire qui est une danseuse, enfin je comprends plus rien. Je comprends plus.
Alors je disais c'est peut-être salutaire pour mardi prochain. Il y aura le sursaut d'orgueil face au Bayern. Je préfère que tu gardes tes analyses fines
oui, pour l'after foot ce soir. Oui, parce que j'ai une analyse complètement différente.
Pareil, celle de Marianne aussi. Parce que.
Elle est concentrée sur le tour des destinations.
Ah ben absolument.
Et je crois que Toulouse Irlande, a gagné aussi au football.
Mardi prochain, c'est PSG-Bayern. Oui. Et écoutez bien, on a encore des places pour PSG-Bayern. On a deux places pour assister au 8e de finale de la Ligue des Champions. Et dès que vous entendrez ceci... Eh bien, il faudra bondir sur le téléphone et m'envoyer foot par SMS au 732-16. Foot par SMS au 732-16. Le jeu pour les fans de ballon, les fans de football de la Ligue des Champions. Il est pour vous. Dès que vous entendez l'hymne de la Ligue des Champions, vous m'envoyez foot par SMS au 732-16. Et c'est deux places pour assister à PSG Bayern mardi prochain. Allez, venons-en maintenant à notre premier sujet de discussion. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Les expressions. C'est la bataille des expressions aussi. La dernière fois, c'était on va transformer l'Assemblée en ZAD. Et puis, on a un sénateur qui estime que aujourd'hui, l'Assemblée ressemble à un camp de gitans. Alors, est-ce que ce sont des dérapages déjà verbaux, surtout quand on parle de Palais Bourbon comme un camp de gitans? Est-ce que c'est une belle image de l'Assemblée nationale, ce qui s'y passe? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules.
RMC, les grandes gueules.
L'Assemblée nationale, ça va être la ZAD.
Vous êtes la caricature de ce que j'essaie d'énoncer dans Le Parisien, c'est la bordélisation du pays.
Transformer l'Assemblée nationale en camp de gitans, c'est pas les Saintes-Maries de la Mer.
Voilà, alors camp de gitans, c'est pas les Saintes-Maries de la Mer, c'est le sénateur UDI Hervé Marseille.
Oui, alors il a regretté cette expression camp de gitans, cette référence à Sainte-Marie de la Mer où il y a des gitans. D'ailleurs, les gitans sont pas contents parce que hier on avait un représentant des gitans qui estimait que c'était du raciste, ni plus ni moins. Donc ce sénateur qui nous avait pas habitué à déraper, mais en même temps Marine Tondelier, la chef des écologistes, nous expliquait qu'elle voulait transformer l'Assemblée nationale en ZAD. Darmanin, lui, dit c'est le bordel. Alors, bordel, ZAD, camp de gitans, est-ce que l'image renvoyée par cette Assemblée, elle est, comment pour vous, elle est épouvantable ou c'est normal, ça fait partie du débat, c'est aussi, ça ressemble à la France.
32-16 pour le dire au Gigi, pour le dire au Grandiol, Marianne.
Alors, quand on regarde, en fait, sous la Troisième République, en fait, il y a des retranscriptions de ce qui se disait. C'est une tradition, en fait, le Parlement français, c'est une horreur, ce que les gens se disent, et ça a toujours été comme ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, la télévision, donc on a un focus dessus. Et donc, en réalité, je pense qu'il faudrait qu'ils apprennent à se tenir et à tenir leur langue. Alors, en premier lieu, ce sénateur UDI, ou je sais pas s'il est député ou sénateur.
Sénateur. Bon,
c'est effectivement raciste. Ses propos sont clairement et purement racistes. Et je comprends, en fait, que, parce qu'il y a les associations de défense des Tziganes qui ont réagi et qui ont demandé des excuses à minima, et c'est la moindre des choses. Ensuite, venir dire, on va faire de l'Assemblée nationale une ZAD, ou de la part du ministre de l'Intérieur parler de bordélisation, moi je trouve que quand même, ils n'ont pas tenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devrait quand même apprendre à se tenir, même si c'est une tradition républicaine de s'échanger des noms d'oiseaux. Maintenant que ce qui se passe dans l'hémicycle sort beaucoup plus et beaucoup plus montré à la télévision, il devrait se tenir. Mais des deux côtés, on peut pas avoir parce que l'UDI c'est quand même la majorité présidentielle. Oui. On peut pas avoir un ministre de l'Intérieur qui parle comme ça de bordélisation. Enfin, tout ça va pas du tout en fait. Donc oui, il donne une très mauvaise image.
Mehdi Ghezzar.
Non, ce qui se passe actuellement dans l'hémicycle, c'est un peu ce qui se passe dans le pays. Ça reflète, moi je trouve. Très bien ce qui se passe dans le pays, c'est-à-dire qu'il y a des clivages qui sont permanents, il y a des problèmes permanents, il y a des luttes qui sont permanentes de classe, de personnes, que il y a plus de respect. Il y a plus le respect par rapport à la fonction.
Le respect, pourrait l'avoir à l'Assemblée nationale, c'est pas la rue l'Assemblée nationale.
Mais le problème,
quand on dit que c'est la ZAD,
voilà, exactement. Et en plus, le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus, tu sais, quand tu vas dehors, tu n'as plus le respect de l'ancien, tu n'as plus le respect de l'autorité, tu n'as plus le respect du doyen. Et ben, je pense que l'Assemblée nationale, c'est à peu près pareil. Quand j'étais plus jeune, nous, les anciens, ce qu'on appelait nous les anciens, quand on avait 15, 20 ans et quand on avait des personnes de 30, 40 ans, on baissait la tête, on avait le respect de ça. Quand on voyait un professeur, on parlait pas. Quand on voyait un policier, qu'il soit municipal ou national, il y avait ce respect. Là, maintenant, il n'y a plus de respect. Il y a une sorte de déliquescence.
Donc on peut s'insulter, s'invectiver.
Tout le monde s'insulte, tout le monde s'invective, tout le monde fait le cow-boy et c'est arrivé jusqu'à l'Assemblée nationale. Pour une fois, c'est même pas que pour LFI. Que ça soit Rassemblement National, quand la dernière fois le type il disait je sais pas quoi par rapport au bateau retourne d'où tu viens ou
retourne en Afrique,
enfin il y a plein d'exemples comme ça qui font que justement le respect est mort. Il y a, pour moi, et dites-vous que ça doit être nos représentants, ça doit être les représentants de la population française. Alors, et t'as 500 et quelques personnes qui sont en train de faire tout et n'importe quoi. Ils tapent sur les pupitres, ils sont au téléphone, ils sont des fois complètement déconnectés, il y en a qui dorment, je sais pas, moi c'est des choses qui me fascinent.
Qui choquent.
Bon alors, c'est fascinant.
Sur l'intervention, là, enfin moi j'ai écrit un bouquin là-dessus, il peut y aller. Les gitans, c'est vraiment, on peut se lâcher. Hein. On n'imagine pas la même chose dit sur n'importe quel autre groupe ethnique, quelle autre minorité ou une communauté. Ce serait immédiatement une levée de bouclier. Et le mec, et non seulement il devrait s'excuser, mais il devrait payer, il devrait démissionner. Mais là, ça va passer crème.
Ce serait pas les gitans, ce sénateur aujourd'hui, il serait dans la tempête.
J'avais fait ce bouquin quand Sarkozy avait fait en 2011 son discours de Grenoble. Je l'avais fait en trois nuits, le bouquin. Tellement j'étais en colère de propos racistes tenus par le président de la République.
Trois nuits en colère.
Et j'avais dit, c'est fou, quoi, parce que C'est inimaginable de le faire. Mais là, ils pouvaient y aller parce qu'il n'y a pas vraiment d'organisation représentative des IGAN. Enfin, c'est un peu compliqué. Bon. Et pour le reste, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on est plus sur un problème de comparaison avec la télévision, avec les médias, qu'avec avec la rue. Tu vois, par exemple, ce qui est devenu une certaine télévision où les gens s'invectivent, s'insultent, où on fait les pires choses sans aucun respect de personne, où on a vu des actes complètement délirants, des gens se rentrer dedans de façon d'une violence. Et les hommes politiques et femmes politiques sont devenus autre chose que des représentants du peuple. Ils sont devenus des formes de starisation. Il y a une forme de starisation des hommes et des femmes politiques. L'histoire, le spectacle. On est dans quelque chose de l'ordre du spectacle. Le spectacle est retransmis et il n'existe que par la petite phrase. Il n'existe que par la capacité de colère feinte ou réelle. Il n'existe que par des prises de position caricaturales. Et en fait,
donc c'est superficiel.
Mais on est dans une télévision. Que crois-tu? Crois-tu que sur certains plateaux de télévision, ils s'engueulent, ils s'insultent, etc. Puis deux minutes après, ils ont oublié ce qu'ils avaient, qu'ils s'étaient traités de
tous les noms. Donc en fait, c'est un talk show, l'Assemblée nationale.
C'est un talk show, mais c'est nous qui...
C'est notre faute.
C'est de notre faute, c'est-à-dire...
En fait, ils font les grandes gueules à l'Assemblée.
Non, c'est pas... Non, je regrette. Il y a beaucoup plus de tenues dans les grandes gueules. Je parle pas des grandes gueules.
Nous, on traite pas les gens de gitans.
Non. Je parle pas des grandes gueules, tu vois. Je serais plus sur d'autres émissions.
Hanouna?
Oui, par exemple, qui sont extraordinairement caricaturales au niveau de l'insulte permanente et au niveau de la violence permanente. Et je trouve qu'ils sont dans l'imitation de cela.
Non. Parce que les questions au gouvernement retransmises, ça fait 30 ans que ça existe sur France 3.
Oui, mais par contre...
Et donc c'est
contre...
à ce moment-là qu'on a découvert les invectives, mais elles existaient, elles existaient déjà, Étienne.
Non, mais tu as raison. Mais là, la différence, c'est que la mise en scène... Oui. La mise en scène est une mise en scène télévisuelle.
Là, il y a une mise en scène.
La mise en scène est télévisuelle. La mise en
quand
scène,
déguiser,
elle est médiatique. C'est-à-dire, on y va pour se castagner parce que ça va faire du buzz.
Alors après, il y a les insoumis. Moi, je comprends ça aussi, qui vont te dire, la colère, la fureur, le bruit, il est dans la rue et on s'appelle insoumis. C'est-à-dire que quand tu t'appelles insoumis, quand tu décides de baptiser, tu forcément, t'es insoumis à l'Assemblée, tu respectes pas les règlements, tu ne tais pas quand on dit de te taire. Non, mais je veux dire, c'est l'argument aussi qu'ont les insoumis. Alors, je ne sais pas sûr que moi, je pense que ça donne raison à Macron. Moi, je pense que les insoumis, malheureusement, ils ne se rendent pas compte, mais ils font le jeu de Macron parce qu'ils sont tellement excessifs qu'à un moment donné, quand même, tu as envie de retourner vers celui qui va peut-être incarner la modération et l'ordre.
Alors,
et donc, je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne stratégie.
On a Alexis au 32-16 qui nous appelle de Gironde. Il est médecin. Bonjour, Alexis. Bonjour, docteur.
Oui, bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que vous pensez de ces expressions « candidat », « zad » Dites-moi.
Bah, écoutez, moi je pense que en fait, ça marque encore plus le décalage qu'il y a entre là-haut et les Français, parce que je pense que personne n'a été choqué. Je ne sais pas si récemment vous y êtes allé dans des « candidat », mais où est le problème en fait avec ce qu'il a dit? Moi, ce qui m'a choqué, c'est la pression qu'on a dû lui mettre pour qu'il s'excuse dans la journée. Moi, j'ai pas compris les excuses. Je me suis dit, mais qui a bien pu dire à cet homme de s'excuser d'avoir dit candidat? Ce n'est pas un gros mot. Et puis, moi, je sais pas, mais quand vous apprenez aussi que certains députés ont reçu des SMS disant qu'un proche était à l'hôpital, enfin, c'est cette insécurité qu'on peut ressentir dans un candidat. Enfin, qui ça choque, à part vous? Mais personne n'a été choqué.
En fait, je suis pas d'accord.
Moi, je suis pas d'accord. C'est bien ce que je dis, c'est que il y a un décalage entre là-haut et c'est pas un gros.
Mais là-haut, c'est quoi? Moi, j'ai vécu pendant 25 ans avec des Roms. Je m'excuse, j'ai pas, il y a une parfaite, s'il n'y avait pas d'organisation vu de l'extérieur peut-être, mais s'il n'y avait pas un système d'organisation très très fort, justement, de socialisation, etc., il y aurait plus de Digan depuis très longtemps. Donc c'est exactement l'inverse. Il ne connaît rien, il est totalement frappé, et c'est un propos purement raciste. Imaginez la même phrase dite avec un autre groupe humain, une autre ethnie.
C'est une expression.
Oui, mais il n'y a pas de racisme.
Malencontreuse.
Attendez, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé dimanche dans le Val d'Oise? Justement, c'était un camp en fait de Rome où il y avait à peu près une centaine de personnes qui a été attaqué par non seulement les habitants mais également le maire qui arrivait avec une pelleteuse et ils ont tout mis à sac. Les gens ont dû partir, ils ont tout rasé. À partir de là, on se rend compte.
De faire.
Et, Non, tu t'autorises. Oui, voilà, voilà, c'est ça. C'est avec des propos comme ça qu'on s'autorise aujourd'hui à attaquer des camps, etc., etc. Mais ça, à la limite, j'ai envie de dire, c'est l'écume de cette histoire, parce que quand vous parlez des SMS qui sont reçus, mais c'est extrêmement grave et il faut qu'on trouve. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près 4 ou 5, ou peut-être un peu plus que ça, élus Rassemblement National qui ont reçu, en fait, c'était a priori, il y avait beaucoup de femmes, c'était des mères de famille, qui ont reçu des messages vocaux, ou des textos sur leur téléphone en leur disant un de vos proches est à l'hôpital, il faut vraiment que vous veniez, etc.
C'était pour les faire sortir de l'Assemblée,
Les faire sortir au moment du vote, ce qui est un scandale absolu. Et il faut absolument qu'on retrouve les auteurs de ça. Mais on ne peut pas, et heureusement qu'il y a une plainte qui a été déposée. Mais on ne peut pas admettre ça. On ne peut pas plus admettre les propos sur les camps de gitans qu'admettre qu'il y ait des SMS. Moi, je pense que, en fait, on ne peut pas dire d'un côté c'est bien et de l'autre
Alors,
c'est
Alexis,
c'est pas
bien. On va continuer la discussion avec Simon qui est du côté du Lot, qui est chauffeur livreur. Bonjour, Simon.
Bonjour, vous
avez entendu ce que disait à l'instant Alexis, médecin, il dit bon, ben voilà, c'est une expression, il ne faut pas en faire des tonnes.
J'ai complètement entendu, et je pense que Alexis, la dernière fois qu'il a été dans un camp de gitans, c'était il y a bien longtemps. Si tu veux, en fait, de dire que ressentir de l'insécurité et le mettre en parallèle avec un camp de gitans, c'est encore une fois stigmatisé, c'est stigmatisé à tort. Dans un camp de gitans, il y a une hiérarchie. Dans un camp de gitans, il y a du respect. Dans un camp de gitans, les familles s'entendent entre elles. Il y a une cohésion qu'il n'y aura jamais à l'Assemblée. Il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose d'humain dans un camp de gitans.
Le patriarche,
non, mais là, vous parlez du fonctionnement. Vous avez aussi ceux qui disent quand vous êtes à côté des camps de gitans, il y a des vols, ils font dériver l'électricité. Voilà, il y a aussi ça qui existe, Simon.
D'accord, du coup, le fonctionnement. Le fonctionnement de certaines communautés, je pense pas qu'on puisse la généraliser à toutes les communautés.
Voilà.
Il y a énormément de.
Mais c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle un préjugé.
C'est un amalgame. Et de dire que l'Assemblée ressemble à un camp de gitans, franchement, c'est dénigrer les camps de gitans. Franchement, je préfère aller dans un camp de gitans qu'à l'Assemblée. Donc, il n'y a aucun respect.
Au moins, tu manges bien.
Il n'y a aucun respect de ceux qui doivent faire respecter l'ordre dans l'Assemblée. Il n'y a aucun respect entre eux. Tu vois, donc du coup,
vous êtes gitan ou de issu de la communauté gitane, ouais.
Absolument.
Et vous êtes senti insulté, quoi, en fait, c'est ça.
Mais en fait, je me suis pas senti insulté. Si vous voulez, ça nous passe un petit peu au-dessus de la tête.
D'accord.
Du coup, on en pense pas moins d'eux et peut-être même un peu plus. Mais du coup, le truc est là. C'est qu'encore une fois, on se sert, que ce soit d'une communauté ou d'une autre, que ce soit des musulmans, des gitans, des juifs, peu importe, on se sert de quelque chose pour renvoyer une image négative, alors qu'on ne sait même pas, on parle sans savoir de cette image à la base.
Merci Simon d'avoir été avec nous en direct dans les GG, dans les grandes gueules. Alexis de Gironde, Simon Dulotte, la discussion va continuer, on vous attend au 32-16. Nous serons aussi avec le député France Insoumise dans un instant, Alexis Corbière, pour voir quelle va être la stratégie dans les jours à venir aussi à l'Assemblée nationale.
Ça s'appelle le bordel, la stratégie.
De la France Insoumise, est-ce que c'est le bordel, est-ce que c'est la ZAD, effectivement. Continuez d'en discuter avec nous au 32-16. Je viens de recevoir un SMS de Kaouter Ben Mohamed qui me dit: Alain, est-ce que tu peux dire en direct à Mehdi et Olivier que je pense fort à eux, à l'OM, je les embrasse.
Oui.
Voilà, c'est Transumie.
Ouais, Kaouter, concentre-toi sur tes tweets parce que t'en as 192 maintenant.
Avec les GG.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, nous sommes avec l'éducateur Étienne Liebig, l'avocate Marianne Soubré, le chef d'entreprise Mehdi Guézard. Les expressions fleurissent en ce moment à propos de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Le sénateur Marseille qui a dit c'est un camp de gitans. On a entendu Marine Tondelier, la patronne d'Europe Écologie Les Verts, dire on va transformer l'Assemblée nationale en ZAD, le ministre de l'Intérieur qui dit la tactique de la NUPES et de la France Insoumise en particulier, c'est la bordélisation. On est justement avec le député France Insoumise, Alexis Corbière. Bonjour monsieur le député.
Bonjour, à tous.
Il y a la forme et le fond, hein. Le fond, c'est la bataille politique engagée contre la réforme des retraites. Et puis il y a la forme. Est-ce qu'effectivement, c'est trop de chahut, trop de pagaille en ce moment à l'Assemblée nationale, monsieur le député?
Je crois pas. Vous savez, on a perdu l'habitude du débat parlementaire en France, en fait. Avec la Ve République, tout le pouvoir est sur le président. Et on a oublié toute l'histoire du pays au 19e siècle, au 20e siècle. C'est qu'à l'Assemblée, ça discute, ça débat, c'est parfois vif, etc. Et là, comme aujourd'hui, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le parti du président n'est pas majoritaire. Il veut imposer un projet 2 ans de plus de travail qui n'est pas majoritaire. Il utilise une procédure qui est inédite, personne n'a jamais vu, ça s'appelle le 47-1, ça donne la possibilité qu'au milieu du débat, ça s'arrête et que le texte soit imposé. Et quand les députés comme nous résistent, c'est-à-dire font entendre la protestation du pays, alors on les montre du doigt en disant « Regardez, ils sont pas contents, ils font du bruit, oh là là, etc. » Bon, et en plus, Hervé Marseille le dit avec ses mots « imbécile », parce que cet homme a l'air d'être assez grossier. Pour lui, évidemment, il convoque tous les clichés les plus racistes, etc. etc. Mais au-delà même de la grossièreté de son propos, c'est une ligne politique qui vise à dire, en gros, le gouvernement a raison de marcher sur le Parlement, le gouvernement a raison de pas écouter les manifestants, c'est le bordel, n'écoutez pas, alors que le sujet,
oui, mais...
il est puissant. Il y a 2 ans de plus qu'il veut l'imposer, alors que rien ne le justifie. Et le peuple est en colère. Donc, vous voyez, le sage montre le doigt, montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. C'est pareil, quand l'opposition dit « refusons 2 ans de plus, c'est scandaleux », il y a toujours des gens qui disent « ah mais quand même, il y a telle personne qui a tapé sur le pupitre, il y a trop d'amendements, je sais pas quoi ». Mais le fond du débat, c'est « est-il juste ? Est-ce que ceux qui nous écoutent considèrent juste de travailler 2 ans de plus jusqu'à 64, 65 ans ?» Alors que pour beaucoup de gens, c'est terrible. Et je crois que ça, c'est un sujet qui mérite d'être sérieux.
D'accord, Alexis Corbière. Je comprends, quand on s'appelle insoumis, on peut pas se comporter comme si on était dans un salon de thé. Je comprends le bruit, la fureur, le fait de pas toujours respecter les règles, etc. Mais moi, je pense que est-ce que c'est pas contre-productif ? Est-ce que finalement, ça va pas à un moment donné lasser les gens ? Ils vont dire bon, les insoumis quand même, ils sont un peu trop excités. Est-ce qu'on va leur confier les rênes du pays ? Est-ce que finalement la modération incarnée plutôt par la majorité, même si on n'est pas d'accord avec cette réforme, ce qui voilà, je suis pas sûr de la stratégie en fait. Votre stratégie, on le voit bien, hein, c'est pensé.
Non, mais vous dites c'est une stratégie. Moi, après on peut discuter.
À déposer 13 000 amendements, oui, c'est une stratégie.
Oui, qui est assez classique. Hein, je veux dire, dans des grands textes, hein, il y a eu par le passé des moments de privatisation de grands services publics.
Il y a eu encore plus.
Ou des parties en déposer. C'est quoi le problème ? C'est que revenons. Ce qui est brutal, c'est ce que fait le gouvernement. Enfin, on a l'air de banaliser le fait que dans ce pays, un gouvernement minoritaire veut imposer quelque chose qui a pour conséquence de mettre 2 ans de plus. Bon, donc ça, c'est sérieux. Et le gouvernement, comme il est gêné là-dessus, ne veut que discuter du style, alors Corbière ceci, les insoumis cela. Mais enfin, je veux dire, ces 5 dernières années, on a répété la même chose, on était 17, on a dit vous êtes excessifs, vraiment. Bon, et j'observe qu'on est passé de 17 à 75. Non, on a failli même être au second tour. Et j'observe même que la majorité dont vous dites, elle a un style plus chatoyant et plus intéressant. Ils étaient majoritaires il y a 5 ans, ils ne le sont plus à l'Assemblée nationale. Donc moi, je veux bien, à propos du...
Donc ça paye. Vous dites que ce que vous faites, ça paye, électoralement.
D'abord, ce que je pense, c'est que le moment-là, l'opposition, la protestation, le refus, il me semble qu'on voit que c'est palpable. Donc après, moi, je veux bien qu'on discute de notre stratégie. Elle est peut-être perfectible. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais je voudrais pas que les gens se laissent abuser sur le fait que on ne veut pas voir ce qui est autoritaire. Bon sang, quand à l'école, on nous a appris la démocratie, c'est la volonté générale du plus grand monde. Eh bien là, il y a un texte qui est minoritaire. C'est ça qui est brutal. Je veux dire, c'est quoi cette histoire ? On en vient à discuter.
Il sera peut-être pas minoritaire à l'Assemblée, vous en savez rien. On n'a pas l'issue du vote. Ce texte sera peut-être majoritaire à l'Assemblée. Si Renaissance arrive à convaincre les députés LR de le voter, d'accord, il sera donc majoritaire.
Très bien, admettons. Alors pour quelle raison c'est le 47-1 ? Pour quelle raison le 17 février au soir, ça s'arrête, même si on a l'article 2, 3, 4, il y a 21 articles ? Si il pense être majoritaire, eh bien qu'il laisse le débat un peu se dérouler. C'est quoi cette procédure dite 47-1 ? Vous savez quoi ? Ça n'a jamais été utilisé. Que ceux qui nous écoutent comprennent. C'est-à-dire
parce que ça passe par le budget de la Sécu. Enfin, c'est assez technique. Je suis pas sûr que ça passionne les gens.
C'est anticonstitutionnel. Je vais vous dire une chose.
Je suis pas sûr que ça passionne les gens, sincèrement.
Vous avez raison de me dire que ça passionne pas les gens. Mais c'est intéressant de dire aux gens, justement, le gouvernement utilise un truc qui est fait normalement pour le budget. C'est une procédure particulière qui consiste à dire le 31 décembre, s'il n'y avait pas le budget adopté, on peut par le 49-3 le faire. Mais là, quand on discute de l'index senior, etc., ça, c'est pas du budget. Donc, c'est y compris, vous savez que vous en avez peut-être parlé, le Conseil constitutionnel va sans doute rendre des aspects va me considérer que tout ça est anticonstitutionnel. Donc, je dis à nos concitoyens, méfiez-vous d'un gouvernement minoritaire à l'Assemblée, minoritaire dans le pays, qui utilise ce qu'il y a de plus autoritaire dans la Constitution, la déformant même, et n'ayant que pour ça l'argument de dire, mais enfin, c'est insoumis, ils parlent fort, donc quand même, hein, ils sont pas crédibles. Moi, je trouve que tout ça est dangereux.
bien plus. Merci. Oui. Alexis, quand même, une dernière question.
Oui, j'avais une question. Je comprends tout à fait ce que vous dites, la différence entre le fond et la forme, et qu'en attaquant la forme, on oublie le fond, sur lequel je suis assez d'accord avec vous. Pour autant, est-ce que vous ne pensez pas que cette forme-là va de plus en plus aujourd'hui faire dériver aussi en dehors de l'Assemblée, c'est-à-dire qu'on n'a plus le respect de l'autorité, etc., parce que même nos élus se comportent, on va dire, de façon excessive et indisciplinée.
Bah ça, je vous laisse commenter. Je vous dis une chose. Hier, il y a deux militants d'Éric Zemmour qui avaient mis en scène le fait de m'assassiner avec Raquel Garrido avec un fusil. Voilà. Qui avait été condamné en première instance, qui là, qui viennent d'être relaxés. Dans ce pays, il y a deux députés menacés de mort. Menacé de mort sur une vidéo, et la justice hier a prononcé le fait que finalement ils étaient relaxés. Ça met en cause un peu.
Vous demandez une justice plus ferme, moins laxiste.
Non, c'est même pas plus ferme. Ouais, mais si maintenant des mecs avec des casquettes Éric Zemmour se mettent en scène avec un fusil de guerre en disant Madame Garrido, je vais la plomber, et je passe sur les propos racistes et sexistes, Corbière, je vais le descendre, Macron, je vais le descendre. Et si la justice considère que ça peut être dit, je vais vous dire, après, la manière dont on se bat à l'Assemblée nationale me semble assez secondaire. L'anti-parlementarisme, il monte dans le pays en raison justement à la fois ou même des propos.
Oui, mais parfois, je vous interromps, mais parfois les insoumis ont été assez ambigus avec la désobéissance civile, voilà. Avec les appels à la violence, les appels aux coupures, lorsque des parlementaires étaient, notamment pendant les Gilets jaunes, attaqués, etc. Parfois, vous avez eu des propos, pas vous spécialement, Alexis, mais d'autres. Vous, Alexis, je suis d'accord, mais d'autres étaient un peu ambigus et laissaient entendre que finalement, tous les moyens étaient bons. Voilà.
Moi, je peux vous dire une chose.
Il faut tout condamner. Je suis d'accord avec vous, il faut condamner toutes les violences.
Et je pense que parmi les principales personnalités de mon mouvement, parce qu'après, vous dites, je sais pas qui parle. Moi, j'ai toujours considéré qu'il était hors
de question.
C'est
Olivier Truchot qui parle.
Pardon, excusez-moi, Olivier, je vous avais pas reconnu. Vous allez bien? Mais j'ai toujours considéré qu'il est hors de question que des désaccords qui font aussi le sel d'une société démocratique. On a des désaccords. Ça doit pas se trancher par la violence. C'est inacceptable. Maintenant, je répète, c'est pour ça que je m'inquiète. Moi, je veux bien qu'on discute de mon style et tout. Je suis pas parfait. Je suis même plein de défauts. Mais ce qui brutalise le pays, ce qui fabrique de l'abstention, ce qui fabrique de la colère. Moi, ce que me disent les gens sur les marchés, ils m'ont jamais reproché la manière dont je les défendais à l'Assemblée. C'est l'inverse. Par contre, ils me disent, je ne vais plus aller voter, j'en ai marre, ça ne sert à rien. Et ça m'inquiète. Un pays où d'un seul coup, on a un peuple en colère, mais qui a l'impression que la démocratie ne sert à rien. Et c'est pour ça qu'y compris les propos de M. Marseille, parce que vous m'avez fait beaucoup réagir sur mon style, mais enfin, le point de départ de notre échange, c'est
que... Oui, c'est le camp des gitans.
Qui est sénateur, lui, il est sénateur, lui, et il explique que l'Assemblée nationale, en gros, avec un cliché raciste, mais j'espère qu'il devrait être condamné par la justice, ou du moins, il faudrait qu'il y ait un rappel.
Merci.
Il faudrait qu'il y ait un rappel à l'ordre, au moins, du bureau du Sénat.
Pour Gérard Larcher devrait dire quelque
chose. Merci, monsieur le député Corbière.
Merci, au revoir.
Merci, bonne journée, Mehdi Ghezard.
Non, mais attention, Alexis Corbière est l'un des plus audibles de son groupe. Hein, il faut savoir, il sait manier le verbe, il sait convaincre. C'est quelqu'un qui a un passé politique. Voilà, mais le problème, c'est qu'il y a parmi ses collègues des gens qui disent des inepties. Quand j'entends encore, pas plus tard qu'hier, en disant « la police tue », un de ses collègues qui dit comme quoi la police
Louis Boyard,
il faut bloquer les écoles, il faut bloquer les lycées, il faut bloquer les collèges, que sais-tu ? Enfin, c'est, à un moment, il faut savoir parler. Il représente, il est quand même député. Il est quand même député. Tu dis la police. Enfin voilà. Je vais lui donner le
attends, midi.
Excuse-moi, Étienne. Je vais lui donner à ce cher député, jeune député, le nombre de pays où la police tue vraiment. Et en conscience en faisant les choses consciemment, c'est pas la même chose que la France. Donc faire passer la France, et je te le dis, je pense que l'Algérie un peu plus dans le, tu vois, par rapport à la police que Monsieur Louis Boyard en l'occurrence. Que dire qu'en France la police tue, c'est un peu fort de café.
Mais dis,
c'est
un peu. Il y a deux solutions.
Il y a eu des problèmes avec la police. C'est un fait.
Merci.
C'est un fait. Je le dis. Il y a eu des débordements. C'est un fait. Voilà. Mais à un moment, ne pas en faire une généralité.
Il y a deux solutions. Soit l'Assemblée nationale, on considère qu'elle représente la nation et le peuple. Jusqu'à présent, l'Assemblée nationale, tout le monde en cravate, qui représentait 25% de profs, 50% d'avocats et de médecins, 20% de gens issus de l'université. Est-ce que ça représentait vraiment la population française ? Non. Il se trouve que par une toute petite chance,
on est un tout petit peu devenu un peu plus représentatif, c'est-à-dire qu'un certain nombre de gens qui avaient complètement abandonné l'espoir qu'un jour ils soient représentés politiquement comme les ouvriers, les femmes de ménage, les gens qui avaient abandonné l'affaire, qui étaient toujours représentés par des gens qui soi-disant les défendaient mais qui en réalité n'en connaissaient rien et n'y étaient et n'en avaient jamais rencontré, d'un seul coup se disent ah tiens, il y a cette personne là qui me représente. Et oui, effectivement, ces gens-là qui représentent vraiment le peuple n'ont pas peut-être à passer par toutes les fourches codines de l'obligation et de cette bienséance.
Je suis d'accord avec toi, Étienne, mais il faut pas que ça soit
bien élevé.
Il faut pas aussi penser que le peuple parle mal, ne respecte pas les gens, parce que ça, mais
je suis l'un des premiers à dire.
Et le peuple n'est pas forcément débraillé.
Le peuple n'est pas forcément débraillé. Olivier, je suis l'un des premiers à dire, Étienne, et tu le sais, je suis l'un des premiers à dire qu'il y a trop de députés, il y a trop de députés qui servent à rien. Je le dis, je le répète, qu'on les paye trop cher, qu'ils sont payés à ne rien.
C'est pas ça la question, c'est qu'ils doivent représenter le peuple.
Maintenant, quand il y a des députés.
Il n'y a pas 25% de médecins.
Il y a des députés qui prennent la parole.
C'est surtout les fonctionnaires.
Qui prennent la parole devant le premier flic de France, en l'occurrence Gérald Darmanin, qui lui dit, monsieur, la police tue, il faut bloquer toutes les écoles, il faut bloquer... Pour moi, je te le dis, ce n'est pas l'image que je me fais d'un député.
Il y a des gens qui le pensent.
Qui me dit que ce député,
attention, Yannick.
Il a pas dit que des conneries, ce député. Il a dit comme quoi les étudiants bouffaient mal, qu'ils étaient mal logés. Je suis d'accord avec
Louis Boyard.
Quand il dit des choses comme ça sur les étudiants, mais je ne peux être que d'accord avec Louis Boyard. Quand il dit comme quoi les étudiants n'ont pas de quoi se loger, n'ont pas de quoi bouffer, raison. Mais qu'il ne fasse pas une généralité, qu'il ne commence pas à
généraliser surtout.
Yannick, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous allez conclure la discussion. Discussion, Yannick, alors est-ce que c'est excessif ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, ça dérape ou pas?
C'est le symbole de remplir le vide avec ces gens n'ont plus aucun pouvoir, ils en ont pris conscience. Donc on fait semblant, on donne un sens à pourquoi on est là en fin de compte. Donc,
bravo Yannick,
je veux dire, il y a quand même quelques mois, il y a eu une élection il y a quelques mois où on nous a dit que Macron c'était la démocratie et que Marine Le Pen c'était le fascisme. Et aujourd'hui, Macron c'est devenu le fascisme. À quelle heure on est en démocratie? À quelle heure ces gens-là considèrent qu'on est en démocratie? Enfin, ces gens-là ont appelé à voter Macron au second tour et aujourd'hui Macron c'est devenu le fascisme. Mais enfin, ces gens-là,
il n'a pas tort.
Ce qu'il dit,
il y a une contradiction, un paradoxe.
Voilà. Vous avez raison. Ouais.
Et vous savez, moi, je cause avec des collègues, mais la retraite, quand on parle, le peuple est en colère. Mais il y a autant de Français qu'il y a de personnes qui considèrent la retraite. On ne voit pas tous la retraite de la même façon. Donc, enfin, le peuple. Mais ces gens-là, on vote pour des députés pour que ces gens fassent leur travail de députés, mais ils n'ont tellement plus de pouvoir qu'ils demandent à la rue, ils demandent l'appel de la rue pour leur porter secours tellement ces gens-là
c'est pas nouveau, c'est l'histoire de France, hein, l'appel
Merci
de la
Yannick
rue.
Merci d'avoir
vous
été
vous qui avez l'air
nous.
De connaître l'histoire de France, s'il n'y a pas d'histoire de France sans appel de la rue. Hein.
On finit, Zad, Géante, Kant, Gitan, est-ce que l'Assemblée donne une image épouvantable? C'est la question qu'on a posé, c'est quand même un oui à 79%, quasiment à 80%.
Donc ça ne reflète pas la France alors.
Donc c'est une perception négative en ce moment du Palais Bourbon. Allez, un instant, on s'en fout pas, avec notre productrice Anaïs Sainz.
RMC,
9h30,
les Grandes Gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules, en direct sur RMC, RMC Story, la perspective de Paris Saint-Germain, Bayern, l'envie d'y aller, assister à ce 8e de finale de la Ligue des Champions, c'est possible grâce à RMC et aux GG en particulier. Vous m'envoyez foot par SMS au 7-32-16 dès que vous entendrez ceci. Ça peut intervenir à tout moment en plein milieu d'une discussion des Grandes Gueules, donc il faut bien tendre l'oreille. Dès que vous entendez l'hymne de la Ligue des Champions, vous envoyez foot par SMS. C'est limité à 3 SMS, 75 centimes d'euros le SMS. Avec Marianne Soubre, avec Mehdi Guézard et avec Étienne Yebig, on va reprendre maintenant le fil de nos discussions. C'est l'heure du on s'en fout pas.
RMC, les Grandes Gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
avec Anaïs Marinière qui est là aujourd'hui. Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. La visite surprise de Volodymyr Zelensky hier à Paris. Le président ukrainien reçu à l'Elysée. Il a été élevé à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur, plus haute distinction que peut recevoir un président étranger. On l'écoute.
Comme Lynn Renault en fait.
Oui, pratiquement, oui, comme Lynn Renault. Bah, elle n'est pas présidente. On écoute Volodymyr Zelensky.
Plus tôt l'Ukraine obtient de l'armement lourd de longue portée, plus tôt nos pilotes obtiennent des avions, plus vite se terminera cette agression russe et nous pourrons revenir à la paix en Europe.
Voilà, la Légion d'honneur et le trophée des GG, bien sûr. C'était notre grande gueule de l'année, Olivier. Bon, est-ce qu'on s'en fout ou pas de cette visite surprise de Volodymyr Zelensky qui réclame davantage d'armes à la France et à l'Union européenne? Mehdi.
Je m'en fous.
Marianne ?
Je pensais pas dire ça un jour, mais je m'en fous.
Oh bah alors, Étienne ?
Non, moi, je ne m'en fous pas du tout.
Alors, Étienne ?
Moi, je suis... je trouve que cette guerre, qui est une invasion russe complètement délirante, on n'imaginait pas qu'elle puisse se faire sur le territoire européen. On n'imaginait pas qu'un jour, là, maintenant, en 2022-2023, la France soit obligée d'être co-belligérante d'une guerre. On n'imaginait pas que cette guerre soit aussi pourrie, dégueulasse, dans des tranchées où on tue des civils. Tout ça, on ne l'imaginait pas. Et tout ça, ça nous remet d'un seul coup dans la gueule, vraiment, qu'on vit dans un monde d'une grande fragilité, que nos enfants ne sont plus sécurisés de rien, dans un monde où on a cru qu'on était sortis de tout ça. Et je trouve que le Zelensky, le fait qu'il trouve des alliés, comme il est en train de se trouver, parce qu'il a joué une carte extraordinaire, démagogique à mort, mais extraordinairement communicative. Il est arrivé à réunir des gens sur ce petit pays dont on n'avait rien à faire avant. Et je trouve qu'il a très bien joué. Il a fait un très beau travail de président. Bravo à lui.
Alors, les GG, acte de sabotage ou désobéissance civile, la CGT a annoncé avoir débranché la moitié des 45 radars automatiques de Loire-Atlantique. Simple mesure de sobriété énergétique, explique le syndicat. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Mehdi ?
Pour la première fois de ma vie, je vais aimer la CGT.
Donc tu t'en fous pas ?
Je m'en fous pas.
Marianne ?
Je m'en fous pas.
Étienne ?
Je m'en fous pas.
Mehdi ?
Non, c'est un kiff. C'est franchement la CGT qui... Non, franchement, c'est
CGT
un kiff.
CGT Énergie.
Non, mais c'est un kiff.
Merci
la CGT. C'est fou à dire.
Regardez cette vidéo. Hein.
Voilà, je sais que ça va rester longtemps dans les tuyaux, mais voilà, bah là, ils peuvent faire parler d'eux. C'est bien.
Ils veulent vraiment être populaires, là.
C'est du buzz. Ça marche. Bravo à eux. Franchement, c'est un beau coup de communication. C'est un très beau coup de communication. C'est mieux que de brûler des pneus au milieu d'un rond-point. Bah, c'est ça, plus de on va dire de punch que ça.
Marianne, si c'est juste débranché, il n'y a pas de dégradation en tant que telle, donc effectivement, continuer, c'est bien. Enfin, c'est bien. Je ne peux pas dire plus, parce que attention, les radars n'en sont pas inutiles. Non, mais ouais, les radars ne sont pas inutiles. Les radars servent quand même à éviter des accidents. Mais dans les zones où, en fait, ça sert juste. Dans les zones où, finalement, il n'y a pas vraiment d'accidents, mais on flash juste les gens.
Là, c'est la moitié des radars du département.
Non, voilà. Non, en soi, c'est pas, pour moi, je ne trouve pas ça très méchant.
Non, moi, je trouve que c'est.
Je crois que tu t'en fous.
Oui, toi, tu t'en fous.
Non, je n'ai pas dit que je m'en foutais. J'ai dit que je m'en foutais pas.
Ah bon?
Et je trouve pas que c'est une très bonne idée. Personnellement, je trouve pas que c'est une très bonne idée.
Pourquoi? On continue.
Mais parce que les radars, ils sont pas là seulement pour piquer du pognon. Ils ont fait diminuer le nombre d'accidents. Il y a des chiffres très précis là-dessus. Donc je trouve ça limite au niveau de la prise de risque. Voilà, je préférerais que ils ne fassent pas payer l'électricité à des endroits où il y a trop de.
Mais reconnais que la CGT maintenant veut se rendre populaire. Ce mais je pas trouve le cas
moi
avant.
Personnellement, pour moi, c'est pas populaire.
Tu vois, par exemple, ils ne font pas grève dans les transports samedi parce que c'est une journée chassée croisée. Là, ils débranchent des radars que tout le monde déteste.
Ils sont beaucoup plus.
Il y a quand même une volonté productive que le mouvement reste populaire.
C'est une bonne idée, personnellement. Voilà.
Est-ce que c'est énergivore, un radar, tiens?
Non, mais bien sûr que non.
Je crois pas.
Ça flash tous les 15 ans.
Oh. Non, ça peut flasher tous les 15 ans parce que le but du jeu, c'est de le flasher le maximum. On les place là où ça va flasher.
Bon, les GG, Valérie Pécresse au cœur d'une énorme polémique.
Ouais,
c'est très sérieux. Elle est accusée d'être à l'origine de l'annulation du deuxième concert de Beyoncé à Paris en raison de travaux sur le RER B. Les fans sont outrés. Et au vu de l'ampleur du scandale, la présidente de la région Île-de-France a dû répondre à la polémique dans une vidéo sur Instagram. Écoutez.
J'ai reçu de nombreux messages de fans de Beyoncé, extrêmement déçus par l'annulation de sa deuxième date de concert à Paris. Alors, il paraît que c'est de ma faute. Je vais rectifier les choses et le dire clairement. Je n'y suis rigoureusement pour rien. Les dates des travaux de SNCF Réseau sont connues 2 ans à l'avance. Et tous les professionnels de l'événementiel le savent. Alors si le producteur de Beyoncé a commis une erreur et mis en vente des places à une date qui était rigoureusement impossible et intenable, c'est de sa faute. Et il ne faut pas se défausser sur les autres. Ça n'est pas très courageux.
Bon, on attend la réponse du producteur de Beyoncé. Est-ce qu'on s'en fout pas, Étienne ?
Oh, je m'en tape, mais grave.
Ok, Mehdi ?
Non, je m'en fous pas.
Marianne ?
Non, je m'en fous pas.
Mehdi ?
Bah, pour une fois qu'un politique se défend et qu'il a les armes pour se défendre contre une fake news, et bah, tant mieux, bravo à elle, elle s'est défendue. Les informations sur les travaux de la SNCF, comme elle a bien dit, sont faites et communiquées 2 ans avant. Donc c'est un manque cruel d'organisation, du professionnalisme du producteur ou de la société qui produit l'événement de Beyoncé. Point à la ligne, mais bravo à elle.
Parce que c'est fait pourrir.
Elle s'est fait pourrir par les spectateurs sur les réseaux.
Pourquoi elle répond? Parce que Valérie Pécresse s'est fait pourrir parce qu'elle a été accusée en gros de priver
la France de Beyoncé pour le Stade de France. Et franchement, bravo à elle, parce que voilà, elle était droite dans ses bottes et elle a dit ce qu'elle devait dire.
Marianne, sur le fond, elle a sans doute raison, et là, effectivement, elle a bien fait de toute façon de prendre la parole. Sur la forme, par contre, l'avocate que je suis a 2 remarques. La première, c'est que utiliser une chanson de Beyoncé pour faire son truc, j'ai peur qu'elle se prenne une attaque, en fait, et qu'il lui demande des droits.
Il y a peut-être un petit montage derrière, je suis pas sûre.
De toute façon, moi, si j'étais le producteur de Beyoncé,
la chanson Beyoncé, c'est nous derrière.
Non, pas du tout. J'en suis certaine.
Moi, quand j'ai entendu la vidéo la première fois, j'ai entendu du Beyoncé. Je vérifie, c'est certain.
Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que en tant que contribuable, en fait, de la région Île-de-France, je me dis quand même combien elle a payé les agences de com pour être aussi mauvaise, parce qu'elle est quand même, je veux dire, sur le fond, elle est sans doute très bien, etc. Mais sur la forme, il y a rien qui va, en fait. Il n'y a rien qui va. Je veux dire, mais qui a été payé pour faire ça?
Ça coûte pas très cher. Hein, si tu fais
non,
ça
mais je parle des agences de com.
Il n'y a pas d'agence de com. Je pense qu'elle a un problème. Elle est
tous abandonnés.
C'est placer sa voix, en fait.
Souvenez-vous, pendant le
fameux grand meeting de sa campagne de premier, qui avait été catastrophique, il y a un problème de gestion.
La gestuelle, elle n'est pas du tout. Elle n'est pas à l'aise. Et c'est dommage parce que.
Alors que Beyoncé est plus à l'aise dans sa gestuelle.
Des fois, c'est l'inverse. T'as des gens qui n'ont rien à dire et qui sont très doués pour la communication.
On dirait un spectacle de fin d'année.
Je pense qu'on est très, très dur avec Valérie Pécresse.
Un enfant qui récite une récitation, il est meilleur qu'elle.
Non, moi, je pense que les gens sont vraiment très, très durs avec Valérie Pécresse. Depuis l'élection présidentielle, les gens lui tombent dessus. Mine de rien, pendant le Covid, elle a fait le job en tant que présidente de région. Elle a été présente.
C'est pas le bilan de Pécresse, c'est une femme politique.
Donc il faut que tu la juges sur son bilan. Il faut pas que tu la juges.
Attention.
Son score à la présidentielle est lié à son incapacité à prendre la parole comme ça. Franchement.
Moi je trouve que vous avez vraiment
très très bien.
Il nous reste une minute pour faire le bilan sur
le Mehdi Challenge. Mehdi qui a 40 jours
sans tabac.
T'as arrêté de fumer.
C'est tabou.
On a 40 jours, un peu plus.
Non, 31
c'est un peu là, oui, c'est 31 40 décembre. Jours dans le désert.
Ouais, c'est non mais ça va, c'est alors, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Peut-être 40 jours. Ouais.
Mais
40
tu tiens vraiment, t'as jamais craqué depuis 40 jours.
Pas une cigarette.
Tu manges plus?
Beaucoup de chewing-gum, mais
comme la semaine dernière.
Mais est-ce que tu compenses avec autre chose?
J'ai pas le temps de faire du sport en ce moment. Ça se voit de toute façon à ma gueule. Mais beaucoup de boulot. Mais franchement,
et tu te sens mieux. Le matin, tu te réveilles
fatigué. Je l'ai déjà dit la semaine dernière. Quand t'arrêtes la clope, il y a quelque chose qui te fait plus prompt à rentrer plutôt chez toi le soir.
Parce que Marianne, elle a ramé aussi pour arrêter. Hein.
Franchement, ça te met un coup.
Alors, pour encourager Mehdi.
Alors, attendez, moi, j'en suis exactement à 15 ans qu'elle a arrêté. J'en suis bientôt 3 ans. Alors, attendez, j'en suis à 2 ans, 11 mois et 1 jour. Wow. Voilà.
T'as économisé combien?
J'ai économisé 10 688 euros, mais moi, j'étais quand même paquet.
C'est énorme.
J'étais à 3 ou 4.
4. 4.
Et j'ai.
Mehdi, les 10 000, c'est sur 1 mois qu'ils économisent.
21 377 cigarettes que je n'ai pas fumées. Qu'est-ce
la
que vous pourriez
c'est fini. Merci Anaïs Sainz. Encore bravo. Félicitations à Mehdi pour son Mehdi Challenge qui tient.
Merci.
Dans un instant. avec cette question. Il y a plus 14% de vols à l'étalage en raison de l'inflation. Je vous pose la question franchement. Est-ce que ça vous arrive en ce moment vu la hausse des prix de voler? Voilà. Vous venez nous en parler au 32-16.
Voleurs appelés.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.